Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Effectivement, il est l'heure sur Europe 1 de retrouver Franck Ferrand qui aujourd'hui n'est pas tranquillement installé au studio Coluche, mais en direct d'un haut lieu parisien, l'hôtel de la Marine. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Pour employer un terme de marine, je dirais que nous sommes à quelques encablures seulement des studios de la rue François 1er. Nous sommes là effectivement sur cette place de la Concorde du côté des Tuileries. C'est Gabriel, vous savez, le premier architecte de Louis XV qui a conçu cette merveille, et c'est Soufflot qui l'a achevé en même temps qu'il finissait l'ensemble de cette place qui est aujourd'hui la place de la Concorde, mais qu'à l'époque on appelait la place Louis XV. Alors, nous allons nous promener évidemment dans ce monument somptueux. Pour le moment, je me situe en haut de l'escalier Saint-Florentin, le petit degré si vous voulez, qui mène aux anciens appartements du commissaire du garde-meuble. Pourquoi le garde-meuble ? Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que depuis la Révolution, bien sûr, ce palais urbain qu'est l'hôtel de la Marine est dédié à l'administration centrale de la Marine. Une marine dont les compétences ont longtemps été autant civiles que militaires du reste, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'abolition de l'esclavage a été préparée ici même. Mais jusqu'à la Révolution, l'hôtel avait une toute autre affectation, c'était le siège du garde-meuble de la couronne, c'est-à-dire que c'était à la fois l'entrepôt central du mobilier et des objets d'art de la France, mais aussi une galerie d'exposition des trésors de la couronne, en quelque sorte le premier grand musée parisien. C'est ici, bien sûr, je vais y revenir longuement tout à l'heure, qu'a eu lieu le plus important cambriolage de tous les temps, le vol des joyaux de la couronne. C'était dans la période tellement troublée de septembre 1792. Alors, depuis quelques années, il est question que l'état-major et l'administration de la marine quittent leur bureau bicentenaire. Et dès lors, c'est beaucoup posé la question de ce qu'allait devenir ce monument historique. Est-ce qu'on allait privatiser un des fleurons du patrimoine national, si en plein cœur de Paris ? La question s'est posée, nous l'avons relayée, vous le savez, à cette antenne. Le secrétaire général de l'Association des Amis de l'Hôtel de la Marine, Jean Ducrot, parle à propos de cet hôtel d'une véritable cathédrale laïque. Il s'agit en tout cas d'un haut lieu de la politique, des sciences, des arts, des lettres, et l'on peut comprendre que l'opinion se soit émue de son avenir. Alors, dans un souci d'apaisement, le président Sarkozy a confié à une commission indépendante le soin de trouver à ces lieux un usage digne de leur splendeur, de leur histoire, de leur position. Et à la tête de cette commission a été nommé le président Giscard d'Estaing, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant que nous ne parlions des préconisations de la commission que vous avez présidée, avant que nous n'évoquions ce que va devenir ce haut lieu du patrimoine, dites-moi vous, à titre personnel, vous l'amoureux du XVIIIe siècle, ce qu'évoque pour vous cet hôtel de la Marine ?
Bon, la vérité, c'est qu'il n'évoquait rien.
Je suis pas sûr. Ça commence bien.
Oui. Il faut dire la vérité.
Vous avez raison, oh, combien ?
Non, et pour les Parisiens, ils étaient dans la même situation que moi. C'est un bâtiment fermé, actuellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas visité. Il a été visité quand il était l'ancien garde-meuble. Il était visité une matinée par mois. Le mardi matin de 10h à midi.
Oui, il fallait vraiment viser juste.
Il fallait viser juste pendant 6 mois de Quasimodo à la Toussaint. C'était tout. Sinon, bâtiment fermé. Et quand je dis que je ne le connaissais pas, c'est parce que je suis passé devant 20 000 fois. Mon bureau était au Louvre quand j'étais ministre des Finances, le long de la Haudrey-Bolly, et j'habitais dans l'ouest de Paris, dont j'empruntais indéfiniment la rue de Rivoli, et je passais devant l'hôtel de la Marine.
On est à mi-chemin, pour les auditeurs qui ne seraient pas très au fait de la géographie parisienne, on est à mi-chemin du Louvre et de l'Élysée, précisément.
Oui, ça c'est l'Élysée, c'est quand j'étais ministre des Finances.
Certes.
Et je passais donc indéfiniment, et je voyais ce bâtiment. Et je ne savais pas ce qu'il s'y passait, puisque c'était l'état-major de la Marine et les services de la Marine. Alors, on s'est aperçu de son importance, de sa signification, il y a quelques années, en fait. Parce que c'est un bâtiment qui est un décor. On va en parler tout à l'heure.
Bien sûr, on va visiter ce décor.
Vous en avez parlé. On n'a pas construit ce bâtiment pour faire le garde-meuble. On a construit le décor.
On a construit les façades, en fait.
Les deux façades.
On a fait une place, en fait.
Pour faire une place. C'était la méthode du XVIIIe siècle. Et quand on a construit les façades, on a dit qu'est-ce qu'on en fait? Alors on avait pensé d'abord mettre une caserne de mousquetaires de l'autre côté. Puis il y a eu une discussion, elle est trop compliquée parce qu'ils ont des chevaux, le mousquetaire était à cheval à l'époque, et alors ça fera des saletés, ils feront du bruit, c'est pas très commode. Et finalement, on a décidé d'en faire des hôtels privés.
Ça, c'est du côté de l'hôtel Crillon. Donc,
l'hôtel Crillon.
Quand on regarde la rue Royale et la Madeleine au fond, c'est ce qui est à gauche.
À gauche. Et ce qui est à droite, la couronne a dit, nous le gardons pour nous. Mais il n'y avait pas d'objectif. Et c'est seulement vers 1765-66 qu'on a dit on va y mettre le garde-meuble.
L'idée de ce garde-meuble, elle vient du frère de la marquise de Pompadour, qui se trouvait être le grand maître de la culture de l'époque, l'équivalent d'un ministre de la culture au temps Louis XV, le marquis de Marigny. C'est lui qui a l'idée d'installer ici un garde-meuble. Si vous le permettez, monsieur le président, nous allons ouvrir une porte, ça s'entend, et nous allons entrer dans ce qui était autrefois l'appartement du commissaire. Du garde-meuble de la couronne. Nous allons visiter en votre compagnie cet appartement.
Alors, en réalité, au début, ce n'est pas Thierry de Villedafray. Le premier commissaire qui a gardé le garde-meuble était un autre. La décision d'y mettre le garde-meuble, alors c'est un détail amusant, parce que c'était dans ce qu'on appelle l'hôtel d'Evreux, c'est-à-dire l'Élysée actuelle.
Alors, si vous permettez, monsieur le président, on va rendre l'antenne un instant et nous nous retrouvons tout de suite. Alors.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie numéro 1 en ré majeur de François-Joseph Gossec.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous sommes précisément toujours au cœur de l'hôtel de la Marine avec vous, Franck, et votre invité.
Exactement, Julie. Alors là d'où nous sommes, j'ai d'un côté, par la fenêtre de gauche, la vue sur l'hôtel Saint-Florentin, qui était l'hôtel où habitait Talleyrand notamment, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, j'aperçois déjà le jardin des Tuileries, le bout de la rue de Rivoli. Nous sommes donc dans cet angle de la place de la Concorde, sur cet immense bâtiment dont le président Giscard d'Estaing nous disait à l'instant que les Français le connaissent bien, puisqu'on connaît très bien la façade, mais qu'on ne sait pas généralement ce qui se trouve à l'intérieur. Vous nous disiez, monsieur le président, il y a un instant, avant que je ne lance la musique, vous nous disiez que le grand homme de cette affaire, c'est évidemment le baron Thierry de Villedavray, qui dirigeait le garde-meuble à la fin du règne de Louis XVI et au début de la Révolution.
C'est ça, qui était un ancien valet de chambre de Louis XVI. Enfin, le mot de valet de chambre.
Oui, valet de chambre, mais donc un proche du roi, et c'est qui ça. Du reste lui ressemblait de façon criante. Il était un sosie de Louis XVI.
Et qui a été, comme vous savez, exécuté dans les massacres de septembre d'une façon assez courageuse, car il est passé devant le tribunal. Le tribunal ne l'a pas eu le temps de le condamner, mais en sortant, on lui a demandé quel était son rôle. Il a dit « Je dirige le garde-meuble royal ».
Le mot à ne pas prononcer.
Le mot à ne pas prononcer. On l'a massacré sur le seuil.
Alors qu'il avait été un grand commis de l'État, personnage
oui,
admirable. Alors nous sommes là dans son ancien appartement où nous reçoit Bruno Barbier. Vous êtes responsable des collections de l'hôtel de la Marine. Cet appartement-là, nous sommes dans l'antichambre de Thierry de Villedavray.
Tout à fait, bien entendu, nous sommes dans l'antichambre qui était en fin de compte la salle d'attente qui permettait aux gens qui venaient voir le surintendant, notamment des nobles qui étaient invités pour partager un déjeuner ou un souper dans la fameuse salle à manger.
On va y passer d'ailleurs si vous voulez, on va avancer tout en parlant.
À cette époque. Mais également, il y avait des artisans qui venaient prendre des commandes et bien entendu se faire régler des commandes.
Alors cette salle à manger est toujours une salle à manger aujourd'hui, nous sommes
toujours
en train d'y entrer. Nous avons un aperçu là-bas sur une très belle pièce à boiseries dorées qui était une chambre de parade en fait.
La chambre, oui, tout à fait.
Et de Marie-Antoinette. Ce que nous avons là sous les yeux, c'est une extraordinaire enfilade, une espèce, imaginez, une sorte de très grand buffet bas, mais alors de proportions tout à fait incroyables, qui est dû à deux de nos plus grands ébénistes, Gaudreau et Risner.
Alors, à l'origine, ce meuble a été créé en 1744 par l'ébéniste Gaudreau. Donc c'est une commande pour Versailles. Et puis Marc-Antoine Thierry, quand il est premier valet de chambre à partir de 1776, donc connaît ce meuble. Et lors des réaménagements au sein de Versailles, des travaux, quand il va venir ici à partir de 1784, à connaissance de ce meuble, il va venir le faire transférer ici. Et bien entendu, il va faire appel à Risner, donc ce très grand ébéniste, parce qu'il a une petite idée. Les cuisines se trouvent au rez-de-chaussée, au garde-meuble, et il va décider, en concertation avec Risner, s'il y a possibilité d'agrandir ce meuble en équipant dans la partie centrale de ce meuble un système avec de poulies de monte plat en perçant les planchers qui permettrait de servir les plats chauds dans cette pièce.
Alors j'aimerais demander au président Giscard d'Estaing, sans déflorer le contenu du rapport que vous allez remettre lundi prochain au président Sarkozy, qu'avez-vous prévu pour cette partie-là des locaux, c'est-à-dire pour ces salles qui, à mon avis, sont les plus émouvantes et les plus belles, puisqu'elles ont gardé leur décor du 18e et un décor qui est encore dans son jus.
Alors, d'abord, une remarque sur ce meuble, parce qu'il y a deux de ces meubles. Et l'autre exemplaire...
Il y a le pendant, en quelque sorte.
Le pendant, je l'ai fait transporter à l'Élysée lorsque j'étais président de la République. C'est celui de Risner, en fait. Et on l'a installé dans ce qu'on appelle le salon des cartes à l'Élysée. Vous avez remarqué une chose tout à fait bizarre. Dans cet endroit où on voit le monde, en principe, où on dirige des événements internationaux, il n'y avait pas de cartes.
Oui, c'est un peu un paradoxe.
Alors, on avait créé le salon des cartes, on accrochait les cartes sur les murs, qui étaient fournies par le service public, naturellement. Et au-dessous, pour s'appuyer, pour regarder, on avait mis ce meuble de Risner. Donc je le vois deux fois, il est ici, là-bas. Alors l'appartement, c'est un appartement, il est fragile, il a des très beaux parquets, c'est le modèle de Versailles, c'est le modèle à Croix d'Yon.
Oui, magnifique.
Il a une vue superbe, là vous avez la vue actuellement sur la rue Triboli direct.
On peut dire que c'est une des plus belles vues de Paris que nous avons là, puisque nous sommes, alors j'explique à nos auditeurs, puisque c'est tout l'avantage de la radio, c'est qu'il faut visualiser uniquement par les mots. Nous sommes en débord sur la rue Triboli, nous sommes vraiment au coin de la place de la Concorde, et de la fenêtre où nous avons la vue plongeante en perspective sur l'ensemble de la rue Triboli. Ça va très loin là-bas jusqu'à l'hôtel de ville et même au-delà, c'est
sombre. Le Louvre, bien sûr, quelques centaines de mètres.
Exactement, le pavillon de Marsan qui est là.
Qui est là. Ouais. Vous voyez aussi qu'il y a des tapisseries superbes, parce que la collection des tapisseries est absolument magnifique, et qu'il y a de très beaux meubles.
Alors qu'est-ce qu'on va en faire, si je puis me permettre ?
On ne va rien changer.
On ne va rien changer, c'est l'idéal.
L'idée.
C'est ce que j'espérais vous entendre dire.
On va l'aménager un petit peu, parce qu'il y a des aménagements à faire, mais enfin, très très peu de choses, car on n'a pas dans Paris, à ma connaissance, si vous voulez, de logement, de fonction de haut personnage ou de dans l'état du XVIIIe siècle. On n'en a pas. On a des locaux, bien sûr. Et là, c'est un appartement de fonction.
C'est un témoignage, exactement, un témoignage. De ce que pouvait
et
être un grand appartement.
On a eu la sagesse de le garder avec des cheminées fantastiques, je ne sais pas si vous avez vu
et
ça.
Éblouissantes, c'est-à-dire que les cheminées, par exemple, là, nous sommes devant une superbe cheminée néoclassique en marbre de griotte, qui est couverte de bronze absolument étourdissant de Thomir, j'imagine,
tout
monsieur Barbier.
Tout à fait, de Thomir.
Alors, on n'en finirait pas de décrire les merveilles d'un endroit comme celui-ci, mais il faut que nous avancions non seulement dans notre pérégrination, mais dans notre narration de l'histoire des lieux. Je signale juste à nos auditeurs que lorsqu'on se retourne, on était devant cette fenêtre extraordinaire avec la vue sur la place, sur la rue de Rivoli. Lorsqu'on se retourne, on a la vue en enfilade sur le péristyle, sur la loggia de ce bâtiment avec cette extraordinaire colonnade. Bref, c'est un lieu, j'espère vous donner envie de venir le visiter. Très vite, nous nous retrouvons dans un tout petit instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous retrouvons Franck en direct d'un monument parisien somptueux, l'Hôtel de la Marine.
Et c'est l'heure du récit en quelque sorte, Julia. Quand on parle aujourd'hui de joyaux de la couronne, évidemment, ce à quoi on pense, ce sont les joyaux de la couronne d'Angleterre. Hein, c'est la Tour de Londres. Il faut savoir que le plus fabuleux des trésors royaux se trouvait autrefois en France. Et quand je dis fabuleux, c'était une somme absolument extraordinaire de 9500 grands diamants, plus de 500 perles de très grosse taille, 230 rubis et spinels, 150 émeraudes, 135 saphirs, etc., etc. Et encore, je ne parle là que des pierres précieuses, mais il faudrait évoquer les objets liturgiques, les cristaux de roche, les pièces d'orfèvrerie, j'en passe. À lui seul, le fameux Régent, vous savez, qui est aujourd'hui au Louvre, à l'époque c'est encore le plus gros diamant du monde, il était estimé à 12 millions de livres, ce qui pour les personnes habituées aux unités monétaires anciennes va être parlant, c'est une somme absolument gigantesque. Au matin du 17 septembre 1792, dès l'ouverture de séance à la Convention nationale, cette Convention nationale qui vient juste d'être instituée, le ministre de l'Intérieur et des Beaux-Arts, Roland, c'est le mari de la célèbre Manon Roland, évidemment, monte à la tribune et lance d'une voix blanche et pour cause, le garde-meuble vient d'être forcé et pillé, les diamants ont disparu. Consternation, stupeur, bientôt huée dans l'assistance. Ça ne tombe pas bien du tout, parce que il ne faudrait pas perdre de vue qu'en ce mois de septembre 1792, la France est en train de traverser une des plus mauvaises passes de toute son histoire. Depuis le 10 août, la monarchie a été suspendue. La République ne sera proclamée que le 22 du mois courant. Au dehors, les troupes étrangères, et notamment prussiennes, se font chaque jour plus menaçantes. C'est bien simple, elles ont commencé à envahir tout l'est du pays. Longwy vient de tomber, il est question de transférer les institutions dans le Midi. À l'intérieur, c'est l'anarchie, les Girondins, les Montagnards, tout ce monde-là se déchire sans merci. Or, le climat de grand désordre créé par le début de l'invasion et l'apparente vacance du pouvoir vont donner naissance dans ces premiers jours de septembre à toutes sortes d'exactions. Les détenus royalistes sont égorgés dans leur prison par des éléments républicains incontrôlables, ce qu'on appelle les massacres de septembre. Et d'ailleurs, à cette occasion, le 6, Thierry de Ville-d'Avray, dont nous parlait le président Giscard d'Estaing à l'instant, est massacré à la prison de la Force. Et là-dessus tombe la nouvelle de ce vol des joyaux. Tout de suite, les principaux acteurs politiques se renvoient la balle et s'accusent mutuellement de ce qu'ils n'envisagent que sous les couleurs d'un crime d'État. En vérité, que s'est-il passé au juste au garde-meuble, donc dans cet hôtel où nous sommes aujourd'hui? Il y a dans cette affaire une part d'éléments certains et une part d'éléments beaucoup plus douteux. Alors de quoi est-ce qu'on est certain? Il semble établi que tout a commencé dans la nuit du 11 au 12 septembre. À ce moment-là, les joyaux avaient déjà été mis sous scellé, ce qui veut dire qu'il était matériellement impossible de fracturer la porte donnant accès aux salles du premier étage sans rompre les scellés et donner l'alerte. Qu'à cela ne tienne, il est avéré que les voleurs sont passés par les fenêtres. Comment est-ce qu'ils ont fait? Oh, ben, le plus simplement du monde, à l'aide d'échelles, de cordages, ils ont fracturé les fenêtres, ils se sont introduits dans les salles abritant les joyaux. Alors vous allez me dire, ça aurait dû se voir. Mais oui, ça aurait dû se voir. Seulement, en l'absence de rondes de nuit suffisantes, les gardes nationaux n'ont rien remarqué. Comprenez pourquoi certains évoquent quand même de très haute complicité. Or, si vous avez bien noté, le vol n'a pas été constaté dans la nuit du 11 septembre, ni dans celle du 12, ni dans celle du 13. On a pris, sur le fait, une poignée de malfrats seulement dans la nuit du 16 au 17 septembre. Or, dès les premiers interrogatoires, il devait s'avérer que le cambriolage avait eu lieu en 4 fois 4 nuits consécutives, ce qui est une véritable honte, un camouflet sans équivalent pour les forces chargées du maintien de l'ordre. Il faut dire qu'à l'époque, vous avez compris qu'elles avaient surtout affaire à du désordre. Si la police est inefficace, la justice en revanche se montre expéditive. Dès le 21 septembre, un tribunal criminel juge 2 cambrioleurs qui ont été pris la main dans le sac. Tous deux sont condamnés à mort. Étrangement, ils ne seront pas exécutés du reste. 2 autres cambrioleurs seront condamnés 3 semaines plus tard. Mais l'enquête, pendant ce temps, l'enquête de police piétine, elle s'enlise dans une avalanche de déclarations contradictoires. Bref, après un mois d'instruction, 17 malfrats notoires passent tous de même en jugement pour ce vol historique. 5 sont acquittés faute de preuves, 12 sont condamnés à mort et sur les 12 en question, 5 seulement sont réellement exécutés. Les autres bénéficiant de sursis qui conduiront à des remises de peine, etc. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela? Si l'on en croit l'historien Babst et son histoire des joyaux de la couronne, qui est parue en 1889, l'affaire serait dépourvue d'implications politiques. Il ne faudrait y voir que la mainmise du milieu de l'époque, la pègre parisienne, si vous voulez, qui serait à l'origine de toute cette affaire intégralement. Admettons. Le problème, c'est que les saisies effectuées chez les malfrats arrêtés par la police sont loin de permettre la reconstitution du trésor dérobé. Même les grandes pierres, les plus difficiles à écouler, ne referont surface surface que beaucoup plus tard. Pendant 2 années entières, à coups de révélations étonnantes, de lettres anonymes, de restitutions mystérieuses aussi, on va peu à peu remettre la main sur un certain nombre de stars de la joaillerie, si j'ose dire, à commencer par le Régent, le Sancy et la plupart des Mazarin. Alors, de nos jours, la plupart des historiens s'accordent à admettre qu'il n'est pas possible que ces cambriolages successifs aient été menés sans des complicités essentielles. La grande question dès lors, c'est de savoir quelle complicité. Et là, il y a deux types d'hypothèses, en quelque sorte. Vous savez que on a longtemps cru, et en l'occurrence, c'était d'Allonville, écrivain royaliste, qui disait que Danton aurait fait enlever les joyaux et puis Billaud-Varennes les aurait emportés pour acheter la retraite de Brunswick au moment de la bataille de Valmy, parce qu'il faut savoir que les Prussiens à Valmy n'ont quasiment pas livré bataille. C'est une des thèses qui ont été avancées et accréditées par le fait que Napoléon lui-même s'y soit rallié, en tout cas si l'on en croit ce qu'il dit dans le mémorial de Sainte-Hélène. Et puis, il y a une autre thèse, diamétralement opposée, et qui, elle, accuse directement les cercles royalistes. Selon cette dernière hypothèse, il semblerait que les responsables du garde-meuble et ceux qui avaient en charge le contrôle des plus grands joyaux de la couronne, voyant la France tomber dans le pire des désordres et abolir jusqu'au régime monarchique, après tout, qui était en France depuis tant et tant de siècles, ces gens-là, un certain nombre de serviteurs du trône, disons, qui bénéficiaient de complicités directes ou indirectes avec des personnalités au-dessus de tout soupçon, ces personnes auraient cherché à mettre à l'abri les principaux joyaux de la couronne, soit pour y trouver des subsides, soit tout simplement dans l'attente de jours meilleurs. Et c'est pour camoufler cette première opération de soustraction qu'aurait été organisé ce cambriolage plus classique. Vous voyez que dans cette affaire, un vol a pu, je dis bien a pu, je n'affirme rien dans cette affaire, un vol a pu en cacher un autre.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Précisément au cœur d'un haut lieu parisien, l'hôtel de la Marine, Franck.
Haut lieu parisien, haut lieu français, haut lieu de l'art tout court, Julia. Nous sommes en effet dans ces somptueux salons d'honneur de l'hôtel de la Marine. Alors là, vraiment, les auditeurs pourront aller voir sur Internet. Il va y avoir des photos juste après l'émission. Et puis le film à partir de demain, vous verrez que nous croulons sous les stucs dorés et les cristaux ruisselants. C'est un décor d'état absolument somptueux que nous présente le commissaire général Laurence. Bonjour, monsieur le commissaire général.
Bonjour.
Où nous trouvons-nous précisément là? Alors, je signale aux auditeurs, simplement du point de vue de la disposition, que nous sommes toujours le long, dans cette enfilade, qui est le long de la loggia donnant sur la place de la Concorde. Que sont ces salons?
Alors, nous sommes effectivement dans ce qu'on appelle le salon des amiraux et le salon d'honneur, l'ancienne galerie des grands meubles du garde-meuble, et qui ont été profondément transformés, disons, à partir de l'Empire, pour servir de pièce de réception aux autorités de l'État et aux ministres de la Marine qui, vous le savez, s'est installé ici fin 1780.
Alors si vous êtes là et nous recevez au nom du chef d'état-major de la Marine, c'est que depuis plus de 2 siècles, ce sont des marins qui ont investi les lieux.
Voilà, j'ai coutume de dire que le garde-meuble a duré 25 ans, disons,
et que la Mais marine 25 ans importants en même
25
temps.
25 ans très importants, avec une tranche d'histoire de France importante, bien évidemment. Mais la marine est là depuis 221 ans, avec une cohabitation avec le garde-meuble jusque, disons, en 1799 sous le directoire, où le garde-meuble a cessé.
C'est-à-dire qu'il y avait les deux administrations dans les mêmes locaux?
Pendant une dizaine d'années, et puis le garde-meuble a cessé ses activités, et le ministère de la Marine s'est installé dans l'ensemble du bâtiment. Et c'est un des grands ministres de la Marine de l'Empire, l'amiral Decrès, qui a duré de 1801 à 1814.
L'amiral Decrès, dont la trace est encore très présente ici. On a vu tout à l'heure de très belles vitrines Empire. Vous me dites ça, c'est Decrès qui les a fait installer.
Absolument, puisque c'est lui qui a eu l'idée de faire ici le premier musée naval en prenant des pièces qui étaient au Louvre. Et c'est un musée d'ailleurs qui a duré, dit-on, jusqu'en 1827, pour ensuite constituer au Louvre, retour au Louvre avec le musée Dauphin.
Alors, un très grand nombre de décisions d'importance considérable s'est pris ici même, évidemment, puisqu'on dirigeait ici toutes les affaires maritimes. Absolument. Pendant très longtemps, on ne distinguait pas tellement les questions de marine militaire ou de marine marchande. Beaucoup d'aspects étaient gérés ici. C'est même ici, j'en ai dit un tout petit mot au début de l'émission, c'est ici qu'a été élaborée et signée l'abolition de l'esclavage, la grande affaire d'Arago et de Victor Schœlcher.
Alors, il faut savoir effectivement que le ministère de la Marine était également ministère des colonies.
Et c'est ça.
Et il se trouve qu'après la chute de Louis-Philippe, Victor Schœlcher a été nommé secrétaire d'État aux colonies et c'est lui qui a rédigé, conçu ici le décret sur l'abolition de l'esclavage en avril 48. décret qui a été, dit-on, signé sur un bureau qui est dans la pièce à côté, le salon diplomatique.
Alors, dans le salon diplomatique, nous attend le président Giscard d'Estaing pour que nous évoquions avec lui l'avenir de ces lieux et donc les conclusions que rendra dès lundi au président de la République la commission qu'il préside. La marine est un peu un pincement au cœur de s'en aller de si beau salon.
Alors écoutez, comme vous le savez, certainement la marine est résolument tournée vers l'avenir et vers la modernité, mais ça n'empêche pas les marins d'être effectivement très attachés à leur tradition. Et bien évidemment, ce site est pour eux quelque chose de très important. Cela étant, il est clair qu'aujourd'hui, pour travailler dans des conditions plus fonctionnelles, il est sans doute raisonnable de se retrouver dans un lieu unique qui sera construit dans quelques années.
Juste un mot des somptueux décors qui nous entourent, vaguement chargés. Ils ont été revus et corrigés sous Louis-Philippe.
Ils ont été revus et corrigés à plusieurs reprises. Oui. D'abord dès l'Empire, ensuite principalement sous Louis-Philippe, et puis même le Second Empire, puisque vous avez des traces de référence de Napoléon III. Vous avez à côté la galerie des ports de guerre qu'on a retrouvé à l'occasion de la restauration récente en faux bois avec la marque de Napoléon.
La corniche et les stucs et les boiseries sculptées du plafond sont bleu, blanc, rouge ici.
Absolument. Alors c'est une redécouverte, figurez-vous, parce que à l'occasion de la restauration, on a retrouvé ces frises bleues et rouges avec le liseré blanc, gris entre les deux. Et certains historiens pensent que cela pourrait être la référence à l'adoption du drapeau tricolore
par Louis-Philippe. Oui, c'est ça, l'adoption définitive du drapeau tricolore. Voilà. Nous avons autour de cette table un autre marin que nous connaissons bien à ce micro. Bonjour Olivier Drouhan.
Bonjour Franck.
Vous êtes celui qui m'avait le premier alerté sur le sort de l'hôtel de la Marine à une époque où le moins qu'on puisse dire est qu'on ne savait pas tellement à quelle sauce l'édifice allait être mangé.
Vous évoquez le mot manger, ce qui n'est pas très agréable. Effectivement, nous avons eu très très peur que l'État abandonne ce lieu qui est tellement symbolique. Symbolique du pouvoir, symbolique de l'histoire de France, symbolique des arts, symbolique de mille choses. Et tout à l'heure, le commissaire général Laurence et vous-même, vous évoquiez le fait que cette maison a abrité le garde-meuble de la couronne. Et nous avons bien vu, nous venons de voir, que non seulement elle a abrité ses trésors, mais elle en a constitué un beaucoup plus important encore, qu'elle a su conserver, c'est cet empire maritime. Qui en surface est le second du monde.
Actuellement encore, hein, il faut
actuellement
le dire.
Encore.
Les îles de la Polynésie, notamment, nous rapportent une surface maritime absolument invraisemblable.
Invraisemblable.
Oui.
Mais c'est l'avenir. Et cet avenir a été constitué ici. Et donc, il nous paraissait inconcevable qu'un tel symbole ne puisse pas être conservé.
Quand vous dites un tel symbole, c'est-à-dire que ça fait partie du patrimoine commun, ça, disons.
Hein, tous les Français, c'est évident. Je veux dire, d'ailleurs, ils le ressentent très bien, parce que quand nous avons fait campagne, il faut bien appeler les
choses. Oui, je crois que le mot n'est pas trop fort, je suis témoin.
D'ailleurs, c'est vous qui... vous avez aidé à la lancer, je vous en remercie. Quand nous avons fait campagne, je dois dire que... Enfin, le consensus était évident dans toutes les parties de la population et de tous les coins de France. Ce qui prouve qu'il n'y a pas que les Parisiens qui estiment que ce lieu est le leur, mais tous les Français.
Mais comme disait le président Giscard d'Estaing en ouverture de cette émission, c'était un lieu qu'on ne visitait que très peu au moment des journées du patrimoine ou lorsqu'on avait la chance d'être invité par l'état-major de la marine. Mais enfin, c'était vraiment, pour le très grand public, les lieux étaient quand même fermés pendant longtemps.
Alors, c'est mieux que rien, très peu.
Oui.
Et ça aide à préserver les lieux. Je veux dire, pour moi qui ai eu à m'occuper, comme vous le savez, de Versailles pendant très longtemps.
Et oui, vous avez été le président très actif et très efficace de la Société des Amis de Versailles.
Les grands problèmes à Versailles, c'est d'essayer de faire revenir dans ce palais vide de meubles quelques meubles. Ici, nous avons cette chance rarissime en France d'avoir une maison qui a toujours été habitée, qui a conservé les meubles de tous ses habitants. Et le fauteuil que vous voyez, enfin que je vois devant moi, est peut-être celui où s'est assis Victor Schœlcher, où s'est assis Arago. Chaque meuble ici parle de ses habitants au cours des siècles.
Victor Schœlcher, Arago ou Charles Trenet, comme nous allons nous en rendre compte dans un instant. Merci Olivier Drouhan.
Moi j'ai fait 5 ans de marine et ça m'est arrivé au début de l'existence. Moi j'ai fait 5 ans de marine et ça me fait rêver souvent quand j'y repense. 5 ans de marine au fond d'un petit bureau donnant sur la rue Royale.
5 ans de marine à mâcher du mégot au cœur de la capitale. Je n'ai jamais pris la mer, je n'ai jamais vu les pays, les affiches. Moi je suis resté pépère, navigateur des rues, rédacteur de fiches. Le samedi soir, je n'allais pas à pas. Ben pour les filles les moins sages, j'avais une chambre près de la gare du Nord, bonne aux amours de passage. Les tempêtes, si je ne m'abuse, je les vivais d'en haut, en dessous de la toiture. Des tornades d'autobus, des vagues de métro, des océans de voitures. Des capitaines de corvettes, c'est normal, prenaient des airs de mystère. Et parfois même, quelques vieil amiral se perdait dans le ministère. Et le temps s'est écoulé sans que je réalise qu'il était ma jeunesse. Et qu'après bien des années, si je l'idéalise un peu, c'est
parti. Charles Trenet sur Europe 1 avec 5 ans de marine.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
5 ans de marine, car Franck se trouve toujours en direct de l'hôtel de la Marine à
Vous
Paris.
Vous imaginez, Julia, la variété, la richesse de souvenirs qui sont engrammés littéralement dans les somptueux décors de cet hôtel de la Marine. Alors nous sommes là dans le salon diplomatique, qui est un des hauts lieux de la maison et qui a d'ailleurs servi en partie de resserre au grand joyau de la couronne dont je vous parlais tout à l'heure, et nous y retrouvons le président Giscard d'Estaing qui va donc remettre très bientôt le rapport définitif de la commission qui a essayé de voir ce qu'on pouvait, qui va préconiser ce qu'on pourrait faire de ces lieux. Vous êtes parti, monsieur le président, de deux grands principes. Il faut peut-être les rappeler, ils sont fondamentaux et ils vont faire plaisir à Olivier Drouin.
Bon, les principes. Premier principe, c'est que les lieux qui sont liés à l'histoire de France, qui appartiennent à l'État, qui sont liés à l'histoire de France, et où le peuple français, d'une manière ou d'une autre, a exercé sa souveraineté, doivent rester la propriété du peuple français. On ne peut pas les vendre. Et on ne peut pas faire non plus des ventes déguisées, c'est-à-dire des loyers pour 100 ans, des histoires de ce genre, où en fait on transfère la propriété. Donc ça reste la propriété du peuple français. Premier principe. Deuxième principe, il faut que ces lieux restent vivants et donc qu'ils soient affectés à des usages, qu'ils soient des usages utiles pour la collectivité et ouverts sur les curiosités, les besoins de la population française. Donc c'est à la fois l'idée de garder la propriété et d'autre part d'ouvrir les lieux à des usages contemporains. Alors c'est ce qui a déterminé les choix de la...
Alors, que va-t-on faire de ces lieux? D'abord, vous avez distingué plusieurs parties, bien entendu, dans l'héritage. Il faut savoir que nous parlons, nous, beaucoup aujourd'hui, et des appartements du 18e et de l'incroyable enfilade de ces salons d'honneur, mais que le bâtiment est infiniment plus vaste et qu'il comporte aussi beaucoup de locaux administratifs, par exemple.
Oui, bon, il n'est pas gigantesque, parce que, force d'en parler, on a fini par faire croire que,
oui, que c'était un quartier de Paris entier.
Non, il est de l'ordre de 28 000 mètres carrés, c'est grand, mais enfin, c'est pas un quartier de Paris. Alors, il y a la façade. La seule chose qui a été construite, en fait, avec soin par Gabriel et son équipe, ce sera la galerie du trésor français.
Ça, c'est magnifique. Comme
ouverte au public. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, permettez-moi de vous corriger un peu, parce que
vous amuserez
un peu les auditeurs. En fait, il y avait deux trésors français. Il y avait le trésor royal qui a été constitué en fait à partir de Charles V, donc extrêmement longtemps, et qui était des objets servant au sacre ou aux grandes batailles.
Les régalias, comme on appelle ça.
Alors il y avait les cuirasses, par exemple, de François Ier à la bataille de Pavie, il y avait les sabres de tout le monde, il y avait la cuirasse d'Henri II quand il a été tué dans un duel, et ça c'était le trésor royal. Puis il y avait les bijoux de la couronne. Les bijoux de la couronne, c'est des pierres, et qui tenaient en fait dans un seul meuble, qui était dans cette pièce, et qui était sur l'autre gauche, qui était placé là. Meuble qui a été malheureusement détruit. Alors, il en reste un petit morceau au Gobelin, je crois.
Oui, il reste des portes, notamment, superbes. Oui.
S'il y avait un mécénat actif, un jour, bon, pour l'instant, on a évidemment d'autres soucis en France, mais s'il y avait un mécénat actif, ça serait intéressant de refaire ce meuble.
Ah,
puisqu'on
oui.
a les images, on a des morceaux.
Donc, toute Nous cette avons la partie, gravure là sous les yeux, d'ailleurs.
Cette partie-là sera visitée pour voir les deux trésors, c'est-à-dire le trésor français, les souvenirs, les histoires, et en même temps, ce qui reste des trésors de la couronne, c'est-à-dire les grands diamants. La France avait les trois plus grands diamants du monde à l'époque, elle en a encore deux.
Le Régent et le Sancy.
On a le Régent et le Sancy. Il y avait le diamant bleu, qui était
magnifique diamant bleu.
Je crois que vous en avez parlé
récemment. Qui est devenu le Hope Diamond, j'ai fait une émission sur le...
Et oui, et il est au Smithsonian Institute. Bon, enfin, on en a deux sur trois dans le monde, quand même pas mal. Et donc, tout ceci sera présenté par le Louvre, ici.
Ce qui veut dire que les objets les plus... Comment dire ? Les plus emblématiques, probablement les plus fastueux, hérités de notre histoire, vont tous être exposés ici, sur la place de la Concorde, dans un bâtiment qui, en plus, avait initialement été conçu pour ça.
Oui.
Ça, c'est une belle idée, quand même. Bravo. Ça, bon. Je crois que tout le monde applaudira à cette idée-là.
Je transmettrai vos félicitations à la Commission.
Très modeste.
Alors, géré par le Louvre, et naturellement sous des formes à déterminer, parce que ça sera soit des expositions fixes, soit des expositions à thème, de façon à garder naturellement également les sites du Louvre pour la présentation. Donc, c'est pour la partie avant. L'appartement de Thierry de Villavray, que vous avez fait visiter tout à l'heure aux auditeurs, on va le remettre dans son état d'origine, avec son mobilier, sa vaisselle, son état d'origine. Et il sera visité.
Ça, c'est magnifique.
Alors, visité avec les précautions qu'il faut, naturellement, mais comme on visite, on a l'habitude d'organiser cela. Et le balcon, qui est sur la place de la Concorde, sera accessible au public. Alors, ça n'est pas très simple, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, naturellement, et qu'on ne peut pas consacrer des moyens énormes à la protection de ce balcon, mais dans des conditions qu'on mettra au point, ça sera ouvert au public, les gens pourront venir voir
cette fabuleuse perspective.
À partir de là. Voilà. Pour le reste, les cours seront ouvertes et traversées par une allée et par une rue piétonnière. Et vraiment piétonnière, c'est-à-dire aucun moyen de transport plus ou moins moderne, etc., à pied. Bon. Parce que la porte, en fait, entre les deux cours est étroite, de toute façon, aucun gros véhicule ne peut traverser. Et elle sera bordée par des arcades qui existent, mais qui ont été bouchées par la marine, par les besoins de bureaux de la marine. Donc ça sera des cours bordées d'arcades et dans lesquelles il y aura une série de magasins, de galeries d'art, de magasins de différentes spécialités artistiques et culturelles.
On évoquera, c'est ici qu'on évoquera la gastronomie française, notamment.
Alors, la gastronomie française sera, nous sommes au-dessus, là.
Ah,
sera
bon,
sous
oui.
nous, là. Hein? Dans l'angle rue Royale, place de la Concorde, il devrait y avoir un restaurant, mais un restaurant avec une vocation spéciale. J'en ai parlé avec les plus grands chefs français, parce que c'est pas un restaurant de luxe de plus, c'est un restaurant accessible, donc dans une gamme de prix qu'on peut atteindre, et présentant la gastronomie française spécifique. Et à côté, une médiathèque sur la nourriture humaine, sur comment l'espèce humaine s'est nourrie depuis l'origine. Ça sera sur la façade, avec des fenêtres qui ouvrent sur la façade, parce qu'il ne peut pas y avoir de porte sur
oui,
la façade,
oui,
mais il peut y avoir des fenêtres. Ensuite, il y aura des magasins, donc dans la cour, tout le long, jusqu'à la sortie, en face de la rue de Rivoli. Donc ça fera une espèce de grand circuit piétonnier, qui actuellement n'existe pas, puisque la traversée de la place de la Concorde est difficile, on est sur...
Oui, c'est un quartier compliqué, il faut faire le tour, en
c'est
fait,
ça, faire le tour. Et alors, dès cette année, nous demandons à la marine d'ouvrir la galerie qui est sur la place de la Concorde, qui actuellement est grillagée, où il y a un grillage, et où on garde des véhicules, etc. Elle devrait,
déjà être restituée au public.
Être ouverte au public.
Bravo. Et alors, vous laissez quand même une petite place aux marins à travers l'Académie de Marine.
Ben d'abord, on laisse le nom.
Oui.
Parce qu'il y avait une discussion, comment fallait-il appeler ce bâtiment. Et au fond, la mémoire, d'une certaine manière, c'est les noms. Et donc, nous proposons qu'on continue de l'appeler l'Hôtel de la Marine. Vous savez que c'était la Marine et les colonies, n'est-ce
oui,
pas
c'est ça,
Tout
c'est
à
ce
l'heure, vous avez
l'instant.
Dû voir dans mmh. vos conversations, oui. parce que la colonie était presque aussi importante que la Marine. Donc, on mettrait quelque part dans le bâtiment, du côté de la cour, une salle pour l'Académie de Marine, et dans laquelle la Marine pourrait entretenir ses souvenirs et tenir un certain nombre de manifestations, de commémorations.
Un lieu d'exposition hors du commun, une évocation de ce qu'il y a de plus beau dans le patrimoine français, et même une place pour l'Académie de Marine. Nous sommes très impatients de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, évidemment, à toutes les équipes de l'Hôtel de la Marine qui nous ont facilité la tâche, aux équipes d'Europe 1, car c'est toujours un petit exploit que d'organiser ce genre de duplex, même lorsqu'on n'est pas très loin de la rue François 1er. Merci à tout le monde donc, et nous nous retrouvons demain pour une émission plus classique.